Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Merci d'écouter RTL, excellente journée à vous tous. Qui êtes avec nous ce matin, 7h45, Elisabeth Martichoux, recevez le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu.
Bonjour Sébastien Lecornu.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Pourquoi allez-vous à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, demain? Il y a un préfet, on a entendu d'ailleurs hier la préfète, elle était sur RTL. Il y a des associations, il y a des syndicats, il y a des élus, vous ne leur faites pas de confiance? Il faut que le gouvernement s'en mêle?
Si, au contraire, on leur fait complètement confiance, mais il y a des engagements clairs du Premier ministre et du gouvernement depuis le 17 janvier dernier dans la feuille de route d'Édouard Philippe sur la mise en œuvre de cette décision sur Notre-Dame-des-Landes, avec un certain nombre d'axes très clairs, le retour à l'état de droit, j'imagine qu'on va y revenir, également la mission Grand Ouest autour des infrastructures nécessaires pour cette partie de la France, Pays de la Loire et Bretagne, c'est Elisabeth Borne, ma collègue, qui s'en occupe, et puis il y a aussi le projet agricole, puisque le Premier ministre l'avait dit, les terres ont vocation à redevenir agricoles, et donc je vais les rendre sur place, un, pour entendre, concerter, écouter, comme d'ailleurs j'ai pu le faire à d'autres endroits en France, Fessenheim et Bure, et également pour écrire les dernières lignes aussi avant la fin de la trêve hivernale, puisque comme vous le savez, l'état de droit revient sur cette zone.
Il y a deux, déjà vous l'avez dit deux fois, donc vous êtes vraiment là pour, je pense, incarner l'autorité de l'État. Il y a deux enjeux, vous occupez des zadistes qui occupent illégalement les terres et régler la question du transfert des terres agricoles, c'est ça pour vous?
Mais oui, d'ailleurs il y a un lien évident entre les deux, le Premier ministre l'a dit, au printemps, c'est-à-dire donc maintenant dans quelques jours, le compte à rebours est lancé, les personnes qui n'ont rien à faire sur cette zone, les personnes qui n'ont ni droit ni titre, qui n'ont pas de projet agricole,
devront quitter. Sébastien,
aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes présentes encore sur la zone, et donc à la fin de la trêve hivernale, dès le début du mois d'avril, les personnes qui n'ont plus rien à y faire ont vocation à partir.
Il y en a combien de ces personnes qui n'ont rien à y faire?
Écoutez, sur les 300, nous sommes en train de faire ce travail et de les répertorier. C'est pour ça qu'hier, il y avait un comité de pilotage.
Deux mois après l'annonce, 10 jours avant la fin de la trêve hivernale, vous ne le savez pas?
Bon, si, on en a déjà une petite idée, mais je garde le chiffre pour moi.
Pourquoi?
Parce que nous continuons d'y travailler.
Ça fait partie de la
stratégie. Et je ne veux pas donner
de
chiffres. Je peux vous donner un deuxième chiffre. Une centaine sur ces 300 sont assez violents.
Une centaine sur ces 300
donc,
sont assez violents.
Donc, ne s'inscrivent pas dans l'état de droit et dans un projet agricole.
Par parenthèse, le gouvernement, justement, après le 17 janvier, l'annonce de l'abandon de la construction à l'aéroport, le gouvernement avait dit, mais il y aura une évaporation, entre guillemets, naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui quitteront le site. Ça n'a pas été le cas.
Pour l'instant, ça n'a pas été le cas.
Ça,
mais
vous,
je
ça
pense
vous surprend?
Il reste
ça,
encore 15 jours ou 3 semaines. Je fais confiance à la nature humaine, Elisabeth Martichoux. Il reste encore 15 jours ou 3 semaines dans lesquelles, effectivement, certaines personnes occupantes la zone peuvent se déclarer exploitants agricoles ou faire valoir déjà des droits qu'ils ont ouverts en la matière et porter un projet agricole, ce qui en feront des occupants légaux. Mais je tiens quand même à préciser que sur ces 300 personnes sur la ZAD, elles sont dans des situations juridiques très différentes. Vous avez des personnes qui ont été expropriées, des agriculteurs qui ont été expropriés. Dès lors que la DUP est devenue caduque, bien évidemment, ils peuvent récupérer leurs terres moyennant participation financière dans la rétribution. Vous avez des personnes qui avaient déjà des conventions d'occupation précaires, c'est-à-dire qu'ils avaient l'autorisation d'exploiter des terres agricoles. Puis vous avez des néo-agriculteurs, pardonnez-moi cette expression, qui eux sont des zadistes, occuper des terres et les exploiter sans droit particulier, cela, la main est tendue pendant encore quelques jours pour qu'elles se mettent en situation de conformité avec la loi.
C'est-à-dire qu'elles peuvent, ces personnes-là qui exploitent sans autorisation, négocier un permis provisoire avant que ça ne soit réglé.
L'idée, c'est qu'il faut qu'on soit cohérent. On ne peut pas dire que les terres doivent retrouver une vocation agricole et faire de l'agriculture sans agriculteur. Donc il est évident que cette étape-là est importante. C'est pour ça que je suis allé souligner ce compte à rebours, cette dernière chance-là, ces 15 jours, ces 3 semaines qui s'ouvrent devant nous, dans lequel on peut définitivement clarifier la situation. Moyennant quoi, l'ordre public sera rétabli.
Autrement dit, parmi les zadistes sans titre, c'est comme ça que les avait appelés le Premier ministre le 17 janvier, il fallait les expulser. Parmi ceux-là, il y en a qui pourront rester parce qu'ils ont un projet agricole, et puis il y a les autres qui n'ont aucun projet.
Parmi ceux-là, vous avez des zadistes qui sont des militants de l'ultra-gauche violente et qui ne seront jamais agriculteurs et qui sont là
le 31 mars et quelques heures.
À partir du 1er avril.
À partir du 1er avril.
partir
vous
du 1er avril,
très rapide
à partir du début avril, du 1er avril, vous avez la fin de la trêve hivernale et vous avez la possibilité pour le ministère
c'est
de l'Intérieur de rentrer dans cette phase d'expulsion. Mais une fois de plus, il n'y a pas que des gens de l'ultra-gauche violente sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez aussi des gens qui ne sont pas en situation de violence et qui, entre nous, aujourd'hui, répondent plutôt positivement à la main tendue de revenir dans l'état de droit. C'est ce que nous avons commencé hier avec le comité de pilotage présidé par Nicole Klein, la préfète. Et c'est pour cela que je me rends deux jours là-bas en Loire-Atlantique pour rencontrer l'ensemble des acteurs, des associations qui représentent des personnes qui sont sur la ZAD, mais également les élus régionaux, départementaux, les parlementaires.
Vous allez les rencontrer aussi, les militants de l'ultra-gauche, comme vous dites?
Non, je verrai des associations qui représentent le monde agricole. Je n'ai pas vocation à rencontrer des personnes qui sont dans une situation...
Vous allez sur la ZAD, vous n'allez pas seulement rencontrer des gens
sur
la
ZAD demain, mais je ne vais pas aller faire des sourires à des gens qui sont en situation d'une illégalité, d'une violence totale. Une fois de plus, en revanche, je suis là pour tendre la main à des personnes qui sont parfois dans une situation d'illégalité, mais qui souhaitent, qui manifestent le vœu, l'envie de revenir dans l'état de droit, notamment par l'agriculture.
Mais au final, il y aura peut-être très peu de gens, très peu de personnes, une poignée de vraiment de militants qui
Tant
veulent
mieux.
Absolument rester. Il faut vraiment donner les CRS pour eux au risque de tendre l'ensemble
personne
du climat, parce que
personne
les paysans qui habitent sur place, ils n'ont pas envie de voir les CRS.
Non, les paysans qui habitent sur place et qui veulent exploiter leurs terres veulent pouvoir l'exploiter dans des conditions qui sont normales.
Mais ils pouvoir faire le ménage, entre guillemets,
non,
eux-mêmes.
Je vois bien où vous en venir, Elisabeth Martichou, dans un état de droit.
Où,
on ne fait pas le ménage soi-même, c'est aux forces de l'ordre de le faire dans, le cadre, dans un cadre légal, de police administrative ou de police judiciaire.
On sent que vous avez une mission. Hein. On sent que la mission, c'est d'incarner l'autorité, l'état de droit, que vous êtes là pour dire, attention, on a abandonné l'aéroport, mais...
Quand on connaît mes convictions et mon passé, je n'ai pas besoin de me forcer beaucoup pour ça.
C'est naturel chez vous.
Mais la concertation
aussi.
C'est
votre côté aussi. De droite, peut-être.
Oui, mon côté président de département et ancien maire aussi. Qui fait qu'il faut savoir décider, trancher, tout en écoutant et en concertant, y compris avec celles et ceux pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes premiers rendez-vous tout à l'heure, il y aura ces associations de personnes raisonnables qui veulent un projet agricole pour la suite sur ce territoire.
Parmi les promesses du Premier ministre, toujours le 17 janvier, il y avait celle d'améliorer, bien sûr, la desserte pour ne pas trop pénaliser la région après l'abandon. Quid de l'extension de la piste de l'aéroport de Loire-Atlantique?
Tout ça, alors, effectivement, est le deuxième axe qu'avait fixé Édouard Philippe, c'est d'avoir une réponse sur les infrastructures.
On a l'impression qu'il ne se passe rien.
Dans l'Atlantique, j'y viens. Un, dans l'Atlantique. Deux, l'aéroport de Rennes, Saint-Jacques. Et trois, la relation entre le réseau ferré et les aéroports parisiens. Ça, c'est une mission qu'Elisabeth Borne, ma collègue ministre de la Transport, a confiée à M. Roll Tanguy. C'est une mission de 6 mois qui rendra bien évidemment ses conclusions aux alentours du mois de juin, avec un certain nombre de calendriers très précis, notamment sur Nord-Atlantique, pour répondre directement à votre question, entre une série de travaux qui peuvent être faits extraordinairement rapidement. Le ministère y travaille, et les travaux
vraiment,
de plus long terme.
Avant la fin du quinquennat, dans les années qui viennent, il y aura l'extension de la piste de Loire-Atlantique.
Je dis, il y a des travaux qui peuvent être faits rapidement, des travaux qui nécessiteront plus de temps. Une négociation avec Vinci est en cours. Ma collègue Elisabeth Borne, déjà rendue une fois sur place pour aller à la rencontre des différents acteurs là aussi du sujet. Elle y retournera à mi-étape, elle l'a annoncé, faites-lui confiance.
Sébastien Lecornu, vous avez un peu répondu à la question déjà. Vous êtes plutôt expert ou sniper? Dans un gouvernement qui compte beaucoup de techniciens, il manquerait des cogneurs plus politiques pour riposter.
Pourtant, les dossiers que je traite là sont des dossiers très techniques.
Oui, c'est pour ça que je vous pose quand même la question. Sniper ou
expert?
Ou expert,
expert.
Plutôt expert.
Bien
et
sûr.
Comment riposter à la petite musique qui monte et qui instruit un procès en manque
pédagogue,
d'empathie.
Alors, pas sniper, pédagogue alors.
Qui manque d'empathie.
Expert pédagogue.
Procès qui est instruit à l'encontre du président, qui manquerait finalement de compréhension à l'égard des Français qui sont touchés par sa politique.
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, je pense qu'il a montré sa compréhension pendant l'élection présidentielle. Il n'aurait pas été élu président de la République à 39 ans s'il était en décalage avec ce que pense l'opinion publique française. Si la question c'est le rythme des réformes, c'est notre capacité à les entraîner très vite et qu'à un moment donné ça puisse créer des interrogations parmi nos concitoyens, ça c'est une question que je peux répondre plus directement. Moi je pense que si on n'avance pas très vite sur le rythme des réformes, c'est là où justement on créerait l'incompréhension. Je pense que c'est l'inaction qui a tué l'action politique, l'action des pouvoirs publics ces dernières années, et que avec 11 millions de personnes qui votent pour Mme Le Pen il y a seulement encore quelques mois, on nous a plutôt réclamé une transformation rapide du pays qu'une pause un peu feignante ou bourgeoise.
Quand vos collègues de Bercy, Bruno Le Maire, dit dimanche sur France Inter, nous tiendrons, quelle que soit la durée de la grève à la SNCF, il n'y a pas un côté rester droit dans ses bottes.
Non, mais c'est ce que les Français nous demandent.
1995.
Mais les Français nous demandent ça. Rappelez-vous, encore quelques semaines à la gare Montparnasse, vous m'auriez posé la question en disant mais qu'est-ce que fait le gouvernement pour répondre à ce scandale d'un service public ferroviaire qui ne donne plus toutes ses promesses aux Français? C'est ce qu'on fait.
Monsieur le secrétaire d'État à la transition écologique, la gratuité dans les transports, Anne Hidalgo, maire de Paris, a raison de lancer le débat ce matin.
Elle est cohérente avec sa politique sur la voiture dans une grande ville qui se métropolise. Je trouve ça intéressant de le regarder. Ce n'est pas forcément applicable partout en France, en revanche.
Dans une petite ville, dans votre région, par exemple,
moi,
dans
je,
votre ville.
Économiquement, je ne sais pas faire ça, puisque à Vernon, par exemple, la voiture est quand même indispensable. Et donc, on ne peut pas supprimer la voiture au bénéfice du transport en commun, fût-il gratuit.
Merci beaucoup, Sébastien Lecornu,
merci
d'avoir
Elisabeth
été
Martichou.
Ce matin sur RTL.
Sébastien Lecornu qui dénombre une centaine de zadistes violents, ne respectant pas l'état de droit sur 300 zadistes à Notre-Dame-des-Landes. On clarifie la situation, puis nous ferons respecter l'état de droit dès le 1er avril, nous a dit le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.